Bonjour à chacune et à chacun dans ce premier dimanche de l'Avent. Comme disait Roland, on a décidé de choisir de suivre le lectionnaire biblique pour vivre cette période qui prépare Noël. Et on a envie de se préparer vraiment pendant, non seulement juste avant Noël, mais toute cette période de l'Avent, parler des textes qui annoncent la venue de Jésus. Et puis tous ces textes qui nous invitent à nous préparer à sa venue. On vit cette année une période de l'Avent particulière comme on n'en a jamais vécu jusqu'à maintenant. Et on a allumé la première bougie de Noël sans savoir si on pourra fêter Noël avec nos proches cette année ou comment on pourra le faire. C'est vrai que tout change autour de nous. On a nos habitudes, on a notre façon de vivre qui change, nos relations aussi. Et dans ce contexte-là, j'ai été touchée par un des textes qui est proposé aujourd'hui dans le lectionnaire, qui est celui d'Ésaïe 40. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu cette semaine, puisqu'il était proposé dans l'agenda sur le site. Je vous invite à lire le début du texte, Ésaïe 40, versets 1 et 2. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix. Les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tes péchés. J'ai été frappée par les premiers mots de ce texte. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir. Rendez courage à Jérusalem. Et je crois que aujourd'hui et maintenant, on a besoin qu'on nous redonne de l'espoir. On a besoin de courage. Le peuple de Juda avait besoin tout particulièrement d'espoir et de courage pour avoir une autre perspective que celle qu'ils avaient juste devant eux, qui était celle de la déportation avec son cortège de souffrance. Et nous, on a besoin aussi de lever notre regard de notre situation actuelle, avec ses difficultés, avec ses incertitudes. Et on a besoin de regarder à Dieu pour puiser notre espoir, notre courage, notre espérance. Dernièrement, avec Michel, on a discuté avec un de nos voisins. Et il nous expliquait ses difficultés à trouver le sommeil. Parce qu'en fait, il était tourmenté par tout ce qu'il avait vu et lu dans les médias. Il nous a énuméré toute une série de mauvaises nouvelles avec un regard extrêmement pessimiste sur notre monde d'aujourd'hui. Et tout cela, ça le tracassait au point de ne pas réussir à dormir. Il en perdait complètement le sommeil. Et suite à cette discussion, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que moi je réagis très différemment aux mêmes nouvelles. Je suis au courant des mêmes choses et je réagis absolument différemment. Et j'ai réalisé à quel point ce qui manquait à mon voisin, c'était l'espoir, l'espérance. Cette espérance qui, moi, me porte. Oui, je sais que Dieu est bon, qui maîtrise l'histoire. Je sais qu'un jour, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie. Et je sais que la vie ne se résume pas à ce qu'on vit sur cette terre. Je sais qu'après la mort, Dieu me promet une vie avec lui. Et je sais aussi que Jésus a vaincu la mort et qu'il revient bientôt. Alors dans ce contexte morose qui est le nôtre, j'ai le bonheur de pouvoir compter sur cette espérance que j'ai en Jésus. Et cette espérance, elle n'est pas là que pour moi, elle est pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, qui placent leur confiance en Dieu. Et cet espoir, ce courage, nous pouvons aussi le redonner autour de nous. Et c'est ce que ce texte nous invite à faire. Redonner de l'espoir à mon peuple. Et nous pouvons le faire en réorientant le regard vers Dieu, dans la bonne direction. Et je crois qu'on a vraiment à réorienter notre regard. Au lieu de regarder que notre situation, regarder à nos pieds, ce qui nous entoure, eh bien, nous avons à regarder à l'horizon. J'ai choisi cette image de montagne que je trouve très très belle et qui va vous être montrée. Si on regarde à ses pieds, eh bien, on voit en premier plan qu'il y a juste de l'herbe. Mais si on regarde à l'horizon, on voit tout à fait autre chose, des montagnes, une autre perspective. Le retour du Christ, la fin des souffrances et des maladies, le jour où tout être humain verra Dieu. Tout ça, c'est notre horizon. Le fait de regarder tout ça, eh bien, ça nous aide à ne pas céder à l'affolement. Les difficultés présentes, c'est pas la fin de tout. Et tout cela, ça remet aussi de la perspective. Dieu nous a promis un avenir. Et si on continue à élever notre regard encore un peu plus haut, on voit le ciel. Pour nous souvenir de ce qui se passe dans le ciel, vous avez vu ces beaux rayons. Moi, ces rayons, ça me fait toujours penser à Dieu. Pour se souvenir, en fait, de tout ce qu'il y a dans le monde invisible et qui nous porte les promesses de Dieu sur lesquelles on peut compter. Je pense que de se rappeler de cela, ça nous aide à rester dans la confiance, à avoir du courage. Et dans la version que je vous ai lue, il est dit « redonner de l'espoir à mon peuple ». Dans d'autres traductions, il est écrit « consoler mon peuple, parler à son cœur ». Alors je vais vous énumérer quelques-unes de ces promesses et de ces vérités. Et je vous invite à les écouter et à vous laisser encourager. Consoler, fortifier dans votre cœur et dans votre espoir. Dieu, il est présent dans nos difficultés. Il est fidèle. Il nous aime tendrement. Il est puissant. Il ne nous abandonne pas. Il a des projets pour nous. Il prend soin de nous. Et toutes ces promesses, elles sont pour nous, mais elles sont aussi pour d'autres qui sont autour de nous et à qui nous pouvons redonner le courage et l'espoir. Je vous invite maintenant à lire la suite de notre texte avec les versets 3 à 5 d'Ésaïe 40. Quelqu'un crie. Dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines. Changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. Alors la gloire du Seigneur paraîtra, et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Ce texte commence par « quelqu'un crie ». Et on ne nous dit pas « qui c'est cette voix qui crie ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Orient, c'était dans les habitudes, quand il y avait un suzerain, un dirigeant qui arrivait, d'envoyer quelqu'un devant lui pour crier, pour donner l'ordre, en fait, de se préparer, de préparer l'avenue. Il déblayait le chemin. Et c'est ce que fait cette personne qui crie. Elle crie pour préparer la venue de Dieu lui-même. Vous avez peut-être reconnu ici le texte que cite Jean-Baptiste, on l'a vu dans la petite vidéo tout à l'heure. Jean-Baptiste, il a parlé de lui-même en disant qu'il était, lui, cette voix qui criait de préparer le chemin pour la venue du Fils de Dieu, du Messie que beaucoup attendaient. Le but est de préparer la voie pour que tous puissent voir la gloire de Dieu. Jean-Baptiste a préparé les cœurs à la première venue de Jésus. Et nous, nous sommes invités à préparer nos cœurs et ceux autour de nous à la seconde venue de Jésus. Je vais vous lire un deuxième texte qui était prévu pour ce dimanche, c'est celui de Romains 13, versets 11 à 14. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le temps de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Le jour va se lever. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce texte, Paul parle de la seconde venue de Jésus. Et il en parle en parlant du jour qui vient. Comme quelque chose de positif, le jour vient après la nuit. Et il encourage à sortir du sommeil. À veiller sur sa façon d'être, à être cohérent. Et le fait de dormir, ça serait comme se laisser aller à de mauvais comportements puis être indulgent avec soi-même. Paul nous invite à nous réveiller et à pas se laisser aller, à ne pas être indulgent avec nous-mêmes. Et si on reprend l'exemple de Jean-Baptiste, on peut se faire une idée de comment il a préparé le chemin pour la venue de Jésus. Il a repris sévèrement les personnes qui étaient orgueilleuses ou hypocrites. J'ai toujours été frappée par cette sévérité. Parce que l'orgueil et l'hypocrisie, c'est un peu comme des montagnes ou des collines qu'il faut abaisser pour préparer la venue de Dieu. Il a aussi, Jean-Baptiste, invité tous ceux qui se savaient imparfaits à s'approcher de Dieu pour être pardonnés. C'est comme s'il avait comblé les vallées pour ouvrir un chemin devant le Christ. Et de tout temps, Dieu a fait ça, il s'est opposé aux orgueilleux et il a fait grâce aux humbles. Notre monde est souvent très orgueilleux. Il prétend pouvoir se passer de Dieu. Il prétend tout savoir, tout maîtriser. Et des circonstances comme celles que nous vivons nous rappellent que c'est absolument pas vrai. Et ça nous appelle à l'humilité. Et c'est quand nous sommes humbles qu'on peut voir la gloire de Dieu. Et nous arrivons à la troisième partie du texte d'aujourd'hui, avec les versets 6 à 8. Il commence aussi avec la question de prier, de crier. Quelqu'un me dit « crie ». Je demande « qu'est-ce que je dois crier ?» Il répond ceci. Les êtres humains sont comme l'herbe. Ils ne sont pas plus solides que les fleurs des champs. Quand le souffle du Seigneur passe sur elles, l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, les êtres humains sont aussi fragiles que l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu tient toujours. Cette fois-ci, il est dit « Quelqu'un me dit « crie ». Alors, on peut imaginer que c'est Dieu ou que c'est un ange qui parle à Ésaïe et qui lui donne une mission. Crie. Mais Ésaïe, il n'a pas l'air d'être très au point sur le contenu du message à transmettre. Qu'est-ce qu'il doit transmettre? Alors, ce message lui est précisé. Et c'est un message très imagé, très simple à comprendre. Il compare les fleurs des champs, l'herbe, avec la fragilité et le côté éphémère de la beauté de la vie et de la beauté de l'humanité. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre un coquelicot dans un vase? On comprend très vite le côté éphémère de la belle fleur des champs. La fleur coupée se fane vite, l'herbe sèche. Et cette fragilité de l'humanité, elle est très très visible dans ce qu'on vit actuellement. Mais cette fragilité, elle ne doit pas nous faire paniquer ou nous déstabiliser. Parce que Ésaïe continue. Au verset 8, il dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, Mais la parole de notre Dieu tient toujours. Quelle joie et quel bonheur! Notre monde fragile peut compter sur la parole de Dieu. Il peut compter sur ses promesses qui durent pour toujours. Mais la parole de notre Dieu dure pour toujours. Alors, appuyons-nous sur cette parole et construisons nos vies sur ce qui est solide et fiable. Les promesses de Dieu ne changent pas. Elles sont vraies et solides. Nous pouvons nous appuyer sur elles même si tout le reste semble mouvant et incertain. Alors, je vous invite à terminer en contemplant un magnifique chant de coquelicots. Oui, j'aime beaucoup les coquelicots. C'est une image de la beauté, mais aussi de la fragilité de la condition humaine. Et tout en regardant ce chant, je vous invite, chacun, chacune chez vous, à penser aux paroles de Dieu qui ne changent pas, à repasser dans votre cœur les promesses de Dieu et laissez-vous rejoindre et fortifier par elles. Car la parole de notre Dieu tient pour toujours. Et je vous invite à vous laisser rejoindre et fortifier par la parole de notre Dieu.